Va maintenant prendre la parole Pierre-Yves Gilles et qui va parler des parcours types et des trajectoires individuelles et donc des éclairages de la recherche en psycho de l'orientation et parler, si j'ai bien compris, d'un dispositif tout spécifique d'orientation que vous mettez en place.
Bonjour à toutes et à tous. Alors, je commence bien sûr par les remerciements à Laurent Connefroy, tous les collègues, donc jury, qui sont une forme de comité scientifique, et puis aussi tout le comité d'organisation, parce que je trouve que depuis le départ, depuis la sollicitation, nous avons été très très bien accompagnés, très bien reçus, donc les plus grands remerciements. Et puis bien sûr, l'intérêt au niveau des participants. Alors je vais effectivement vous parler des parcours types et trajectoires individuelles, avec des éclairages en psychologie de l'orientation. Alors, je vous parle un peu à plusieurs titres. Je suis rattaché dans un laboratoire de psychologie de la connaissance du langage et des émotions à l'Université d'Aix-Marseille, avec une équipe qui travaille sur la régulation et le counseling en orientation. Mais je m'adresse un peu à vous aussi en tant que doyen de la faculté Arlette Langue et Sciences Humaines, qui est une faculté fusionnée, qui a 13 000 étudiants, qui est assez gigantesque et qui, du coup, permet aussi de réfléchir à ces problématiques d'orientation. Donc, au quotidien, on pourrait dire, j'essaye de faire le pont entre mes origines scientifiques et le quotidien. Alors, comme cela a été indiqué tout à l'heure, l'orientation, c'est un petit peu ce qui est convoqué lorsqu'on parle de questions de réussite et d'échec. Alors, l'orientation donc, est assez souvent convoquée lorsqu'il y a des problèmes dans l'enseignement supérieur et quelques constats qui étaient dans le grand débat sur l'école, par exemple. De quelle façon pourrait-on prendre en compte les goûts, capacités, projets de l'élève et les besoins de l'économie de l'orientation ? L'orientation doit être pensée totalement comme une démarche continue et graduée du collège de doctorat. Notre dispositif d'orientation prépare insuffisamment l'insertion professionnelle et ne favorise guère l'égalité des chances. Ça, c'est le rapport Hetzel. Et puis, il y a quelques jours, la CPU, favorable aux annonces de la PB, l'orientation, mais cela ne réglera pas tous les problèmes de fond. Alors, l'orientation, joker, parfois mistigri, enfin, souvent convoqué pour essayer de résoudre les problèmes, solution miracle, comme cela vient d'être dit. Alors, pour s'y retrouver quand même, je continue là-dessus, pour s'y retrouver, donc, il faut sans doute distinguer au moins trois exceptions de l'orientation, avec des termes qui nous aident si on prend l'anglais, désolé pour le collègue québécois, mais counseling, je crois, vous l'utilisez aussi. Donc, l'orientation répartition, l'orientation individuelle et les dispositifs d'aide à l'orientation. Alors, l'orientation répartition, c'est typiquement les éléments de statistiques et les règles, toute l'organisation du système, donc, qui permet de voir en fait comment une population va se répartir dans différentes filières proposées. On est sur un point de vue qui est plutôt macro-sociologique et économique, et c'est ce dont on a parlé tout à l'heure, et je reviendrai hier par rapport à des statistiques. L'orientation individuelle, le career counseling, qui est davantage sur les problématiques donc des conduites des jeunes et de leurs familles, comme ça a été indiqué, les familles sont souvent là, en matière de choix, de stratégie, d'intention, de projet. Et on est là donc sur des trajectoires, comme l'indiquait un peu mon titre, des trajectoires individuelles qui suivent plus ou moins bien les parcours types prévus par l'institution. Et on est là sur un point de vue qui est plutôt psychologique. Et puis il y a bien sûr des dispositifs d'aide à l'orientation, avec toute une problématique, je crois, qui a été posée, c'est-à-dire est-ce que ces dispositifs doivent être en fait périphériques à la formation. Donc, tout à l'heure, je vous présenterai un dispositif qui était typiquement dans cet esprit-là, c'est-à-dire un élément qui vient s'ajouter à ce qui est prévu pour chacun des étudiants de son programme, mais il y a également, on pourrait dire, des dispositifs au sein même de la formation avec des UE d'accompagnement au projet. Et toute la question, c'est de savoir, effectivement, il y a peut-être à prendre les deux options et puis toutes ces questions de qui le fait. Alors, par rapport à ces trois exceptions et la complexité de l'orientation, il apparaît également donc qu'on a une multitude de notions et de concepts qui sont articulés à l'orientation et qui donnent un schéma. Alors, les schémas valent mieux que les longs discours, paraît-il. Donc, je ne sais pas si celui-là vous convient. J'ai mis quelques couleurs pour vous aider. Mais donc, vous voyez qu'il y a, au sein de cette figure, tout un ensemble de problématiques sur, on pourrait dire, la personne, l'individu en tant que tel, avec des caractéristiques psychologiques. La psychologie de l'orientation, en France en tout cas, s'est beaucoup appuyée à la psychologie différentielle, donc l'étude de dimension. Il y a tout un ensemble de questions relatives au monde professionnel, à l'école, la famille, et puis donc le système dans lequel va graviter la personne, tout ça pour arriver à conseiller la personne sur la base d'un modèle qui fait un petit peu référence aussi, très ancien, modèle de Parsons 1907, donc qui est en gros sur un appariement d'individus et des situations représentées au niveau des études et au niveau des métiers. J'ai envie d'ouvrir une parenthèse par rapport aux métiers, parce que parfois ça court-circuite complètement la question sur les études et les représentations des études, et par voie de conséquence, c'est peut-être aussi un des éléments qui est à l'origine des difficultés de nos étudiants, c'est-à-dire que si au lycée on leur parle beaucoup du bac, bien sûr, et puis du métier qu'ils vont exercer, si on oublie ce qu'il y a entre le bac et la profession, il y a un petit problème quand même qui se passe. Donc on a un appariement entre l'image de soi et l'image des professions. Et donc on a ensuite un projet professionnel et puis une carrière. C'est un schéma là qui est extrait d'un ouvrage de Dupont qui est des années 80. Bon, depuis les temps ont changé, quand on parle de carrière, on sait qu'il y a une mobilité énorme pendant les trajectoires. En tout cas, ce qui se passe par rapport à ces questions d'orientation, c'est outre la définition, enfin la polysémie du terme, l'interaction avec tout un ensemble de choses, l'orientation se débat comme elle peut au sein des établissements avec l'information, voire la communication. S'il y a des services de communication, s'emparent très volontiers de la présence dans les salons. Et ça pose parfois quelques problèmes, c'est-à-dire on a l'impression qu'il suffit d'aller faire une bonne publicité et puis les étudiants seront informés. Le deuxième biais, c'est l'insertion professionnelle, parce que l'orientation, comme je l'indiquais tout à l'heure, va être souvent présentée comme un métier en vue. Par rapport à cette insertion professionnelle, il y a quelque chose que je m'amuse souvent à faire sur les salons étudiants. Donc, en général, pour ceux qui fréquentent les salons étudiants, vous connaissez le scénario. Donc, il y a le lycéen, futur étudiant, le papa, la maman, ou l'inverse, au niveau des positions, ça n'a pas d'importance. Et puis le papa va dire, voilà, alors il est intéressé par les sciences humaines, mais il n'y a pas de débouché là-dedans. Et à un moment, on dit, mais il aime bien les langues aussi, dans les langues, ça doit marcher, puis l'informatique. Bon. Alors, bien sûr, la première question, c'est, et vous, que voulez-vous faire, jeune homme ou jeune fille? Bon, mutisme. Alors la question suivante, c'est, monsieur, si je puis me permettre, quelle profession exercez-vous une profession? Oui. Et est-elle en lien avec la formation que vous avez suivie? Oui. Madame, avez-vous une profession? Oui. Est-elle en lien avec votre formation? Ah non. Je dis, vous correspondez tout à fait aux statistiques qui font qu'une personne sur deux à peu près exerce un métier qui n'a pas vraiment à voir avec la formation. Et je crois que tout ça est à vraiment relativiser et à garder en tête, parce que ça permet quand même de dédramatiser beaucoup la force, enfin vraiment la pression que l'on met sur ces choix de métier. Ensuite, donc, j'ai dit que j'irai très très vite là-dessus, sur les éléments relatifs à l'orientation en répartition. Alors en fait, les premiers items sont un QCM pour savoir ceux qui ont suivi hier, sur les taux de passage dans la même filière en général, dans une autre filière, l'insertion professionnelle, les attentes de solutions. Enfin, il m'a semblé que décliner ainsi, il n'y avait pas trop d'autres possibilités. Enfin, peut-être oui, mais l'idée, c'est poursuite d'études, insertion ou pas de solution, ni d'un côté ni de l'autre. Alors j'y ajoute volontiers, là c'est un peu ma casquette de doyen et aussi de professeur en psychologie. Hier, un collègue a dit qu'il y avait 850 étudiants à Poitiers, ils en attendaient 600. Donc nous, on n'attend plus rien, on a 1300, donc on sait que ça explose d'année en année. Donc il y a des filières vraiment pléthoriques et puis des filières pénuriques à côté de ça. Donc on a deux filières vraiment pléthoriques, la psychologie et la langue étrangère appliquée. Et à côté de ça, beaucoup de disciplines dites rares. Donc dans le cadre de la conférence des doyens de faculté de lettres, on a lancé une enquête pour savoir comment faire, parce qu'il y a quand même des problèmes. Les questions qui fâchent, c'est comment on va arriver à maintenir des filières dans lesquelles il y a des étudiants qu'on peut compter sur les doigts d'une seule main. Donc ça pose quand même des problèmes. Voilà, donc ça, c'est des éléments relatifs à l'orientation répartition, mais je vais davantage m'apesantir sur l'orientation individuelle et des éléments qui me paraissent importants sur... je crois qu'on rejoint un peu les questions qui étaient posées hier sur réussite-échec, c'est-à-dire qu'on a des éléments par rapport à cette orientation individuelle, et j'ai marqué en titre l'auto-évaluation de la situation, c'est-à-dire que la question de la réussite et de l'échec, et tout à l'heure le mot d'adaptation a été utilisé, c'est effectivement quelque chose qui peut faire supposer que la personne va soit se maintenir dans l'environnement dans lequel elle est, soit s'en retirer. Le schéma que vous avez là est un schéma qui est propre au milieu du travail, mais tout à fait transférable aux études et au milieu universitaire. Et le principe très très général, c'est en fait qu'il y a un milieu et un individu, et qu'ensuite il y a une adéquation, on pourrait dire, entre la position de l'individu, qui peut être soit objective, c'est-à-dire on peut avoir, comme tout à l'heure, la réussite aux examens, ou qui peut être subjective, et c'est là-dessus que je reviendrai dans un instant, sur les aspects qui sont vraiment importants d'adaptation. Alors, par rapport à ces éléments d'orientation individuelle et d'auto-évaluation de la situation, je suis allé voir la conseillère d'orientation psychologue du SUIO pour lui dire un peu comment ça se passait. Elle me dit que, de toute façon, les étudiants de L1, et elle en voit énormément, avant même qu'ils soient assis, ils disent « je suis perdu ». Donc, ils sont vraiment... très très en difficulté. Il y a un syncrétisme par rapport aux difficultés, c'est-à-dire qu'ils sont dans l'incapacité de savoir en fait quel est le problème qui se pose, si ce n'est qu'ils trouvent qu'ils ne sont pas assez encadrés, c'est sûr, ils ont trop de liberté, que cette liberté est extrêmement contrastée par rapport au cadre qu'ils avaient au lycée. Donc il y a tout un ensemble de choses qui les perturbent. Ils trouvent parfois que les cours sont trop théoriques et sans lien avec le métier qu'ils avaient visé, mais le métier, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que ce qu'ils vont faire ne correspondra peut-être pas aux études. Bref, donc tout un ensemble de choses qui sont par rapport à cette adaptation et ce sentiment plus ou moins d'étrangeté par rapport au milieu dans lequel on est. Et puis, après, la collègue commence à voir aussi des L2, parce que c'est vrai que ça ne s'arrête pas au L1. Alors en L2, elle me dit en fait que c'est l'essoufflement des attentes, c'est-à-dire après avoir... surmonter les obstacles de la première année, l'étudiant, en fait, il dit ouf, et puis, il sait plus trop où il en est, et tout se renégocie au niveau personnel, professionnel. Et quand je vous parlais tout à l'heure de dispositifs, donc nous avons mis en place sur l'ensemble des licences deuxième année une unité d'enseignement, projet personnel et professionnel, préfiguration de parcours, qui est apparemment très bienvenue pour aider les étudiants dans leur choix ultérieur. Alors, par rapport à ces questions d'adaptation, un autre schéma qui me permet simplement de pointer, mais comme ça l'a déjà été dit, avant d'arriver à la performance, à l'adaptation au niveau des performances et au niveau plus subjectif, en fait, il y a tout un ensemble de caractéristiques, je crois que ça fait écho à des choses qui ont été dites, c'est-à-dire on s'intéresse à des caractéristiques de l'individu, ce matin on nous a dit par rapport à Tinto, on s'intéresse à des caractéristiques de l'environnement, en fait la mode, j'allais dire, depuis quand même pas mal de temps, c'est de s'intéresser à l'interaction des deux, et finalement comment les deux systèmes arrivent à peu près à se correspondre. Alors on voit qu'au niveau des individus, parce que c'est la psycho, donc c'est plutôt ce qui m'intéresse, donc le système personnel, il y a donc des caractéristiques, personnalités, compétences, préférences, donc qui est le trépied classique de l'intelligence, personnalité, intérêt, pour aller très vite. Il y a une multitude de variables candidates pour essayer de décrire l'individu, hein, donc, puisque c'est, le but serait ça. Après, on essaye de voir dans le système ce qui se passe. Et par rapport à ces éléments-là, on pourrait ajouter énormément de variables sur le coping, locus de contrôle, etc., etc. J'en passe et des meilleurs. Alors, ce que nous avons essayé de faire au sein de notre unité de recherche, c'est de s'intéresser principalement sur l'adaptation. Et je vais vous passer dans quelques diapos sur là où on en est, où là on n'en est pas vraiment. Donc, première des choses... L'adaptation à l'université, alors on peut avoir des critères objectifs, mais ce qui nous a paru intéressant, c'est de disposer d'outils pour avoir une évaluation subjective de l'adaptation. Et à partir de ça, donc, on a commencé ici à prendre un questionnaire, donc, qui est Student Adaptation to College questionnaire. Donc c'est un questionnaire anglo-saxon, et on en a fait une adaptation. Et vous avez donc sous les yeux, en fait, les dimensions de l'adaptation, c'est-à-dire que vous voyez donc que l'adaptation à l'université, qui est une adaptation donc sur lesquelles on pourrait dire que ce sont des dimensions qui sont à la fois diagnostiques et pronostiques par rapport à la réussite à l'université. Vous voyez donc qu'il y a trois bulles en vert qui correspondent à une adaptation plutôt universitaire et assez proche donc des tâches, on pourrait dire, académiques à réaliser par l'étudiant. Mais on voit en jaune des caractéristiques qui rappellent ces questions d'intégration, et en rouge, ce qui pourrait rappeler l'estime de soi, par exemple. Enfin, voilà, il y a des variables qui, effectivement, sont importantes. Donc tout ça fait que vous avez un cocktail avec six variables, vous avez des exemples d'items correspondant à chacun de ces éléments. Donc le but, en fait, et les quelques diapos que je vais très très rapidement présenter sur cette partie-là, c'est donc comment dimensionner, donc, c'est-à-dire comment trouver en quelque sorte les ingrédients, hein, de la recette de l'adaptation subjective, hein, parce que c'est des éléments qui sont intéressants à connaître pour savoir si l'étudiant va se maintenir ou décrocher. Donc ce questionnaire a été adapté, on voulait l'éditer en français, on a eu un peu des soucis de copyright, on nous demandait des milliers, des milliers de dollars. Donc on a rebifurqué avec une collègue qui n'est pas québécoise mais canadienne à Toronto et qui s'appelle Maxine Vintre, et on a donc bifurqué sur un autre questionnaire qui est le Student University Match, qui je vous présente pas, qui est très très simple, donc où on a aussi des dimensions en fait où l'étudiant indique dans quelle mesure il se sent finalement chez lui, c'est-à-dire est-ce que l'environnement lui convient, est-ce que il y a même une question sur le contexte politique, c'est-à-dire que l'étudiant qui va à la fac de lettres ou à la fac de droit, c'est pas tout à fait les mêmes choses. Bon, c'est caricatural ce que je vous dis, mais il y a un petit peu de vrai en moyenne en tout cas. Alors ensuite. Donc, les figures de l'expérience étudiante, c'est un terme qui a été évoqué hier. Donc, c'est toujours dans notre idée de voir un petit peu les ingrédients de l'adaptation. Et ces figures de l'expérience étudiante, donc on a pris un modèle qui est le modèle de Dubé, qui est un sociologue. Alors, en fait, il y a deux choses qu'on a voulu faire. Bon, d'une part, passer d'une approche sociologique à une approche psychologique, et passer d'une typologie à des dimensions. Alors, sociologie, c'est parce qu'effectivement, on est plus sur de l'orientation répartition, on pourrait dire, alors que nous souhaiterions, nous, avoir plutôt des dimensions qui soient psychologiques, donc, c'est-à-dire qu'on sache interpréter avec nos propres modèles de processus. Et puis, on a donc des dimensions, ça veut dire que par rapport à la vocation, par exemple, je vais dire deux mots de chacun des termes, à la vocation, on ne met pas les gens dans des boîtes de « ils ont la vocation, ils ne l'ont pas », on considère que chacune, il y a des dimensions, voilà. Alors, je ne sais plus à quel moment on a... C'est ce matin, je crois, on a dit « est-ce qu'on parle aux étudiants des dimensions, etc. » Ben moi, donc après avoir bien discuté avec le papa, la maman et le petit, et je dis « mais en fait, êtes-vous VIP ?» C'est-à-dire, est-ce que, quand vous allez à l'université, vous avez vocation, intégration et projet? Alors, ils n'y sont pas encore, mais on discute un peu de ça, et ça marche pas mal. Donc, la vocation, c'est quoi? Ben, en fait, vous voulez... Alors, il veut faire... qu'est-ce que c'est qu'il voulait faire qui n'avait pas débouché sciences humaines? Ben, déjà, il faut un peu préciser les choses. Bon, il va vouloir faire, par exemple, l'histoire de l'art. Et donc, pourquoi il veut faire de l'histoire de l'art? Alors, peut-être parce qu'il est très intéressé par ça. Il est passionné par les musées, le patrimoine. Bon, donc, tous ces éléments-là, ce sont des éléments qu'on appelle, enfin, que Dubé appelle la vocation. Je vous dirai après les correspondants psychologiques. Donc, c'est une première chose. C'est quelque chose qui est assez désintéressé. Donc, on va à l'université par rapport à l'attrait de la discipline. Il y a un intérêt intellectuel, comme on dit. L'intégration donc, a été mentionnée plusieurs fois au cours de cette matinée et hier. Intégration académique, intégration sociale, ça c'est vraiment la compréhension des codes dans lesquels l'étudiant va être immergé, c'est-à-dire l'intégration académique, on l'a vu ce matin, c'est pas une mince affaire, c'est-à-dire que notre système administratif, les unités d'enseignement, la capitalisation, etc., bon, on met tout ça dans les livrets d'étudiants, mais il faut concevoir que c'est quand même assez compliqué. Quant à l'intégration sociale, c'est vrai que parmi les termes très souvent convoqués pour rendre compte des difficultés des étudiants, il y a l'anonymat. Et donc, c'est vrai que, tout à l'heure ça a été mentionné, la question des classes est importante. Hier, on a parlé des cours magistraux. Voilà, donc toute la question ensuite, c'est est-ce que c'est à l'individu de s'adapter au contexte ou au contexte adapté à l'individu ? Vaste question, mais en tout cas, cette question d'intégration est vraiment majeure. Alors, le projet, ben, c'est un peu ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que comme, de toute façon, il y a l'injonction au projet tout le temps, voilà, je pense que c'est au collège, je pense que maintenant, en primaire, ça doit bien remonter, je ne sais pas si on est arrivé à la maternelle, il faut avoir un projet professionnel. En tout cas, là, c'est vraiment l'idée selon laquelle on va à l'université pour avoir un métier. Alors, dans une autre vie, j'étais directeur du SUO, c'est pour ça que je traînais dans les salons, et entre 2002 et 2008, c'est la période où il y a eu le LMD, le CIPE, etc. Donc, il s'est passé beaucoup de choses, et j'ai quand même été surpris, alors j'ai pas fait de mesures quantitatives, mais j'ai quand même été surpris par l'évolution des attentes des étudiants et des familles par rapport à l'université, c'est-à-dire la professionnalisation qui est très très grande. Donc moi, je pense qu'il n'y a rien contre, mais il ne faut pas être manichéen, il ne faut pas non plus qu'on lâche la proie pour l'ombre, comme on dit. Donc voilà les figures de l'expérience étudiante et ce trépied. Alors, on a, comme je vous le disais, voulu regarder ce qui se passait avec des aspects plus classiques de la psychologie et lier ici. Alors, je vous ferai grâce, je laisse ça sur mon, je vois que le temps passe vite, sur mon diapo, je vous ferai grâce des parts de variance expliquées, c'est peut-être pas votre tasse de thé, mais vous pouvez donc voir simplement que par rapport à la vocation, donc il y a des liens qui étaient attendus et trouvés avec la motivation intrinsèque, c'est-à-dire que ça correspond bien au fait que l'étudiant, parce qu'on dit souvent l'étudiant, il n'est pas motivé, etc. Donc, qu'est-ce que c'est que la motivation? Bon, d'abord, il y a des tas de théories, et la théorie qui me paraissait intéressante, c'est la théorie de l'autodétermination d'Essie Ryan. J'ai mis Valrand aussi, Robert Valrand, qui était à l'UQAM, et j'ai vu encore tout à l'heure, j'ai vérifié, si vous faites Valrand LRCS, c'est-à-dire son laboratoire à l'UQAM, vous trouverez encore ça, parce qu'il a McGill depuis 2013. Apparemment, vous trouverez sur son site toutes les échelles que vous voulez gratuitement, ce qui est quand même fort pratique. Alors, il y a ces échelles sur la motivation, et on a donc lié avec la motivation intrinsèque, donc ce plaisir d'apprendre pour apprendre, etc. Et puis, le projet avec la motivation d'avantage extrinsèque, c'est-à-dire des récompenses. Et voilà, je suis allé à l'université pour apprendre un métier. Alors, la suite, donc, comme je parle du modèle de Desi et Ryan, ça me paraissait important de faire un petit focus sur la motivation. Donc, A, c'est la motivation avec, en un seul mot. Le E, c'est la motivation extrinsèque. Et le I, la motivation intrinsèque. En fait, le modèle de Desi et Ryan, de l'autodétermination, vise à aller au-delà du constat. C'est-à-dire que c'est bien beau de faire le constat de quelqu'un qui est motivé ou intrinsèquement, extrinsèquement, ou pas motivé du tout. Bon, mais c'est un petit peu comme le médecin quand il prend votre pression artérielle. Après, il faut aller au-delà. Alors, la modélisation de Desi et Ryan, c'est que c'est de la motivation intrinsèque, hein, puisque c'est celle quand même qui est le meilleur moteur apparemment, dans beaucoup de cas, elle est portée par ce qu'il appelle trois besoins fondamentaux. Et cette diapositive me paraît assez intéressante parce qu'il y a encore un mot là, qui est tout le temps, énoncé par rapport à l'université, c'est l'autonomie. Alors, je ne parle pas de la LRU, mais de l'autonomie de l'étudiant au sein de l'université. Et donc, les trois besoins fondamentaux facilitent la motivation intrinsèque. Donc, l'autonomie, sur laquelle je vais revenir, la compétence, donc, qui est tous ces aspects instrumentaux. À dire vrai, donc, il y a pas mal d'études anglo-saxonnes qui regardent les relations entre des échelles d'intelligence et les réussites universitaires. Bon, les corrélations ne sont pas très fortes. Bon, c'est pas tellement dans le goût donc hexagonal, j'allais dire. Tout ce qui est test au niveau en France, ça c'est pas très bien vu. Et a fortiori en supérieur, on peut supposer que l'accès en l'enseignement supérieur fait qu'on pose pas les questions à ce niveau-là. Mais quand même, il y a des compétences au-delà de ce qu'on appelle les modèles d'aptitude. Et puis l'appartement social qu'on peut là aussi mettre en écho à nouveau avec l'intégration. Alors, cette diapositive, là, et l'autonomie, me paraissait intéressant parce que de quoi parle-t-on quand on parle d'autonomie? Alors, c'est assez compliqué, croyez-moi, c'est assez intéressant, mais on commence à s'y atteler un petit peu. Donc, je vous ai mis en dessous qu'il y a un exemple qui est Ozu, avec, en fait, l'autonomie, qui est là aussi un terme avec trois acceptions. Une autonomie émancipatrice, une autonomie particulariste, une autonomie situationniste, ça veut dire quoi? Alors, émancipatrice, ça veut dire que la personne se sent libre de penser et d'agir un petit peu en dehors de son environnement, distal ou proximal. Particulariste, ça veut dire qu'on commence à afficher en fait sa différence, c'est-à-dire que non seulement on fait un peu comme on veut, mais en plus on l'exprime. Et puis situationniste, donc c'est qu'on a conscience des sources d'emprise et on a un sentiment de contrôle éventuel. Donc il y a une sorte de gradation, c'est-à-dire Je fais un peu selon mes idées, je ne me laisse pas trop influencer, et puis je l'exprime, et puis éventuellement je vois quels sont les mécanismes qui font que je suis plus ou moins sous influence. Voilà, donc il y a d'autres modèles bien entendu. Dans les outils donc, de Maxine Vintre de Toronto qui nous met tout ça à disposition, il y a un questionnaire qui me paraît assez relié à ça, qui est le Student Perception of University Support Scale, qui est en fait basé sur les modèles d'attachement. Avec toute cette difficulté de l'université, mais aussi quand on est parent, c'est-à-dire quelle est la bonne distance, parce que soit on va dire que on fait confiance, ou alors on dit que de toute façon on n'a pas d'intérêt par rapport à la personne, donc on la laisse libre. Voilà, donc c'est un savant dosage, surtout quand on arrive au niveau institutionnel. Alors, il me reste, si je ne m'abuse, à peu près 5 minutes pour vous parler du dernier volet qui est donc un dispositif. On a parlé tout à l'heure des dispositifs et donc par rapport à ce que je vous ai indiqué sur les petits problèmes de définition, sur les questions d'une opérationnalisation qui, vous l'avez compris, est quand même assez réduite puisqu'on est sur l'autonomie, sur la motivation, sur le projet. Voilà, il y a des tas de variables. En tout cas, à partir de ces éléments-là, je voulais vous présenter comment on avait mis en place un dispositif qui s'appelle donc dispositif d'aide contractualisée pour l'orientation et la réussite en enseignement supérieur. Ce dispositif est né en 2006. Je vous parlais tout à l'heure du CIPE, problème des banlieues, etc. Donc c'est né à ce moment-là. Le ministère a lancé un appel à projet. Le ministère, c'était de la politique de la ville. Et on a donc obtenu, on a été une des premières cordées de la réussite, maintenant ça s'appelle, un des premiers dispositifs donc, d'accompagnement. Alors c'était avec un public visé. Ce que je voulais marquer, parce que ça a été mentionné hier, c'est que la logique de ce dispositif, qui va faire l'intérêt aussi, les limites, c'est une logique partenariat, je mets entre parenthèses, en tout cas de l'articulation et de l'interconnexion un peu tous azimuts. Donc j'ai marqué au niveau horizontal les liens, c'est-à-dire les porteurs du projet et les directions d'établissement, le conseil d'administration, parce qu'on s'est vite, on s'est rendu compte un peu tard qu'il fallait vraiment que ça passe dans les instances, parce que le problème, c'est qu'on est un petit peu... c'est pas prévu, c'est pas un labo, c'est pas... Voilà, donc c'est une structure qui n'était pas vraiment prévue pour ça. Ensuite, à un niveau, j'allais dire, plus scientifique, ou en tout cas pédagogique, mais un peu spécialisé, donc le SUIO universitaire, les conseillers et centres d'information et orientation, les universitaires et les professeurs de lycée, les étudiants et les élèves. Donc il y avait comme ça un maillage horizontal et un maillage vertical, et tout ça donne une usine à gaz. Mais vous allez voir que on a quand même pas mal travaillé. Donc les objectifs généraux, c'était promouvoir la poursuite d'études et prévenir les décrochages universitaires. On est là dans un dispositif qui était sur les quartiers difficiles. Donc on était dans un quartier à Marseille où le taux de chômage est absolument énorme, le taux de réussite au baccalauréat n'était pas très fort et le poursuite d'études après bac se limitait à peu près au BTS qu'il y avait dans le lycée concerné. Les axes de travail, donc vous voyez là que on s'inspire de donc ces travaux de Coulon sur le statut de vrai étudiant. La notion de contrat était vraiment essentielle et on avait tout un tas de d'aides. On avait un financement qui était très très conséquent pour aider les étudiants à des tas de niveaux de tutorat, etc. Donc il y avait les transports. Alors je vais passer à toute vitesse. Décidément, je n'aurais pas à garder ça dans la main. Alors. Je vais passer à toute vitesse quatre diapos pour vous montrer, voilà, c'était très lourd. C'est un dispositif qui se déroulait sur 2 ans. En fait, on a démarré en 2006 et on a arrêté en 2013. Hein, donc, on a quand même tenu 7 ans avec des promotions sur au moins 2 ans. C'est-à-dire, on va avoir les étudiants, enfin les élèves de terminale en début d'année et on les quitte, mais sans se dire adieu, juste au revoir, parce qu'on suit après ce qu'ils font à la fin de la L1. Et vous voyez donc qu'il y a un dispositif avec des tas et des tas de séquences qui sont chacune, si vous voulez, avec une action. Et normalement, il y avait derrière, donc d'abord les objectifs assez finalisés, on avait un assez gros fichier de chacune des actions, et les références théoriques et méthodologiques qu'il y avait derrière. Alors, on n'a pas tout partout, mais en tout cas, c'était vraiment le but. Donc ça, c'est en début de terminale. Ensuite, ça c'est la fin de la terminale, après la licence première année et la fin de la deuxième année. Donc je suis passé très très vite, vous voyez simplement ce que je peux mentionner ici, stage d'entreprise et séjour linguistique, avec une idée de procéduralisation des connaissances, bon c'est pas pour faire savant, mais ça veut simplement dire que l'un des axes c'était d'interroger systématiquement l'étudiant pour qu'il donne du sens à ce qu'il fasse à l'université, et que ce n'était pas normal qu'un étudiant de sociologie, en plus, parce qu'il y a eu, donc en 2006-2007, on a démarré, il y a eu 2 gros mouvements de grève quand même, en 2008 et 2009 à l'université, ce n'est pas normal qu'un étudiant soit en sociologie et reste chez lui et ne s'interroge pas sur son monde environnant. Donc l'idée, c'était vraiment qu'il fasse des ponts. Et il y avait donc ça avec des stages en entreprise qui étaient étroitement accompagnés, des séjours linguistiques. Voilà, donc quand je vous dis qu'on avait des bons financements, c'est qu'on pouvait faire tout ça auprès de nos étudiants. Alors, comment rendre compte de quelques données? On a eu tout à l'heure un exposé sur l'évaluation, donc... La première des choses, donc ça a été la première promotion sortie, c'est juste pour indiquer qu'on a plusieurs critères. Alors celui qui est ici, c'est un critère de réussite aux examens, et on a donc il faut toujours référer, bien sûr, c'est-à-dire ça ne sert à rien de dire qu'on a 50% de réussite, et de le déplorer si à l'université on a 40%. Donc forcément, il faut quand même de la référence à la norme, comme on dit statistiquement. Et en fait, ce qui apparaît, et peut-être qui fait un peu écho à ce qui a été dit ce matin, je pense qu'on a plus ou moins évité le piège de comparer des échantillons non comparables, puisque au départ, on s'est adressé à tous les étudiants de terminale, puis ils avaient le choix de venir dans notre dispositif. Je reviendrai, mais ce choix, donc, qui n'était pas librement consenti, on les laissait peut-être trop libres. En tout cas, il y a eu peu de... Enfin, on avait un niveau d'adhésion pas très important. Et vous voyez, donc, il y a des étudiants qui étaient assidus et d'autres qui décrochent, d'autres qui ne sont pas inscrits, etc. Donc, par rapport aux statistiques réussies des examens, c'est sûr qu'on a quelque chose qui était tout à fait intéressant. Ensuite, je vous ai dit qu'on s'appuyait sur des modélisations, donc on a regardé un petit peu avec des entretiens qui étaient enregistrés, retranscrits et passés au crible de Alceste pour analyser les discours, les occurrences, et on a essayé de repérer, donc je vous ai dit qu'on ne mettait pas les gens dans les boîtes, mais c'était un peu pour être fidèle par rapport à la conception initiale de Dubé, où on voit en fait où se situaient nos différents étudiants par rapport au projet, à la vocation et à l'intégration. Et on voit donc par exemple que si l'étudiant, au cours de l'entretien, donc il n'avait pas décroché, parce que c'était un entretien en fin d'année. Mais en fait, si on voyait bien qu'il n'avait toujours pas de projet, il était en histoire, et puis ça ne lui plaisait pas vraiment, il n'avait pas compris que l'histoire, c'était ça. Et puis que l'intégration, ce n'est pas terrible, c'est vrai que la réussite, vous le voyez, n'est pas très bonne. Il y avait 4 étudiants dans ce cas-là. Et en revanche, donc, les réussites arrivent plus ou moins en fonction du fait qu'on marche sur 1, 2 ou 3 pieds. Voilà, donc les profils. Alors, ensuite, il y avait des retours d'expérience avec des témoignages. C'est un peu ce que j'ai indiqué tout à l'heure, c'est-à-dire ce que reçoit la conseillère d'orientation psychologue au quotidien. On l'a vu en fin de dispositif. Là, c'est des retours d'expérience de promotion qui ont été après. Il n'y a pas de scoop, hein, il y a la liberté, l'autonomie, ils se perdent, etc. Donc il y a tout un ensemble d'éléments qui sont des choses sur lesquelles on peut s'interroger. Voilà, alors les mérites du dispositif, ce n'est pas très, très lisible, mais c'est juste pour pointer qu'à chaque action avait quand même un apport, c'est-à-dire si l'étudiant il dit qu'il était un peu perdu, déjà parce qu'au lycée, parce qu'il n'y a pas que l'injonction projet, mais il y a l'injonction pour les études supérieures avec APB, donc il y a des actions qui étaient menées, et puis il nous a indiqué un petit peu comment ça l'aidait, pas forcément pour trouver des solutions, mais parfois ce qui est important c'est de se dire, tiens, il y a un problème et je vais m'y atteler, c'est-à-dire avoir un peu la conscience du fait qu'il fallait s'y intéresser. Et puis, les limites du dispositif, vous apprécierez la petite photo en haut, qui fait que cette cordée de la réussite a été difficile à maintenir. Là, on l'a stoppée, mais la collègue, on avait recruté une chargée d'orientation spécialement, donc c'est elle qui m'a donné les dernières données, et elle m'a dit, ça serait bien qu'on reprenne quand même. Bon, il se trouve qu'on était dans un processus de fusion à Aix-Marseille Université en 2012, c'est un établissement gigantesque, qu'il y avait une organisation au sein de l'université, au sein de la faculté, et qu'on a eu beaucoup de lourdeurs administratives. Bon, c'est le système franco-français, mais peut-être un peu poussé avec un système qui n'était pas encore stabilisé. Et du coup, l'équipe qui portait ce projet a eu le sentiment de faire beaucoup d'administration au détriment du cœur de métier qui était l'accompagnement. Voilà, donc ça, moi, ce que je souligne beaucoup, que j'indiquais, c'était les réticences des étudiants à s'inscrire au dispositif, parce que, en fait, là, vous avez vu, ça s'appelle dispositif d'aide contractualisée, et c'est vrai qu'on était ferme sur les prix, c'est-à-dire qu'il fallait absolument, absolument qu'ils soient assidus, que s'il y avait du tutorat, ils viennent. Donc voilà, c'était assez contraint, parce qu'on a vu tout à l'heure que ces dispositifs qui sont mis à discrétion des étudiants, ce n'est pas ceux qui on en a le plus besoin, qui viennent. Donc on a eu un système contractualisé. Après, ils y trouvaient leur compte. Mais au début, en gros, ils disaient « mais je ne suis pas venu à l'université pour ça ». Donc c'est tout à régler. Alors, en conclusion, de nombreux termes sont davantage au niveau de notions que de concepts. On l'a vu hier sur réussite et échec, mais l'orientation n'échappe pas à ça. On est en compétition avec des tas de termes. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est à la fois, qui est un peu une zone d'ombre ou des limites, ou enfin, comme dirait le collègue, il y a du boulot là-dessus. La deuxième chose, les concepts et méthodes présentés ici fournissent des outils permettant d'identifier les difficultés et d'envisager des remédiations. Donc c'est un éclairage qui est assez quantifié, on pourrait dire, mais sur des données souvent subjectives, hein, c'est pas paradoxal. Donc on a là une façon de recueillir des données dans des situations qu'on appelle observation standardisée, on n'est pas en expérimentation, donc on recueille, et là pour le moment je crois qu'on est en phase assez exploratoire, mais en étant rigoureux sur la méthode, voilà, parce qu'on a tellement de choses qu'il faut commencer par un bout. Et la dernier terme de conclusion, c'est que la diversité des variables prédictrices de la réussite et de l'échec nécessite absolument des recherches interdisciplinaires. On est beaucoup dans la pluridisciplinarité. Le schéma que je vous ai présenté tout à l'heure, c'est la pluridisciplinarité. Les professionnels de l'orientation que nous formons sont souvent sur des formations pluridisciplinaires, c'est les gens de la socio, de l'éco, de la psycho, etc. Et après, ils se débrouillent. Bon, il faut sans doute avoir des formations et des recherches interdisciplinaires, mais j'aurais envie de dire aussi que peut-être que c'est comme ça qu'on arrivera aussi à impliquer les collègues, hein, les collègues enseignants. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention.